Bienvenue sur le service Info Retraite. Pour toutes les questions relatives à la fonction publique, tapez 1. Pour toutes les questions relatives au secteur privé, tapez 2. Service Info Retraite, bonjour. Merci de votre appel. Tous nos conseillers sont actuellement en ligne. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.
Oui, bonjour Daniel, c'est Jean-Philippe de Lyon. On est à Auxerre à nouveau. Il est 5h, donc on peut pas écouter ton émission parce que là, je pense qu'on est quelque part entre 1000 et 2000 à faire beaucoup de bruit aujourd'hui dans les rues d'Auxerre. On change un peu de trajet. Là, on est devant le palais de justice. On doit ensuite aller devant la chambre de commerce et d'industrie. Ça s'impose. La motivation, elle semble pas retomber quand on est là tous ensemble. C'est plus difficile quand on est isolé. Mais au fur et à mesure qu'on arrive des échéances, ça devient de plus en plus sensible et de plus en plus tendu. Donc on continue et à très bientôt Daniel.
Oui, salut à toute l'équipe. Moi je travaille dans une petite boîte de moins de 10 salariés. La retraite c'est 40 annuités déjà maintenant. On n'a toujours pas les 35 heures. Juste un petit coup, une petite compensation financière de même pas 200 francs par mois. Pour répondre à une dame qui disait qu'on n'allait pas manifester, que c'était toujours eux. Moi, je manifeste contre Le Pen, contre la guerre, contre le chômage. Pour les autres, mais moi, dans ma petite boîte, quand c'est le samedi, quoi, quand on travaille pas, ben où je travaille, il n'y a pas de structure, il n'y a plus de structure, il n'y a rien du tout, quoi. Puis il y a cette pression au-dessus de la tête contre le chômage, quoi. Cette pression du chômage au-dessus de la tête qu'on a tout le temps. Et puis ça change tout, je pense. Qu'on le veuille ou non, c'est... Et pourtant, je suis pas le dernier à gueuler quand il faut et puis avoir envie de manifester. Mais tant qu'il y aura ce chômage au-dessus de notre tête qui remplace bien les menottes, quoi, eh ben ça sera pas possible. Donc, faut changer plein de choses, quoi. Et puis les fonctionnaires, moi, je les défends, quoi. Le peu que quand ça se passe dans la petite entreprise, dans la boîte où je bosse, quand tout le monde chie dessus, en général, je défends toujours le côté où tout le monde chie sur les mêmes, quoi. Eh ben salut, continuez votre émission, c'est super, quoi. Je pense que ça apporte plein de trucs, quoi. Ça fait bouger un peu les choses, puis les mentaliser. Salut.
Bonjour, c'est une Corrézienne qui vous téléphone. Le grand-père paternel de Monsieur Chirac était instituteur laïque à Sainte-Féréole, en Corrèze. Et je me demande si Monsieur Chirac pense quelquefois à son grand-père et se demande si ce brave homme serait fier de voir son petit-fils démolir l'école nationale laïque comme il le fait. Je m'appelle Françoise Moreil.
Article 3, donc, de la Constitution du 4 octobre 1958. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Titre 1 de la souveraineté, un petit peu avant. Son principe est, donc de la souveraineté, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, voilà, donc Premier ministre, ça c'est sur le site du Premier ministre. Donc j'incite Monsieur Raffarin à lire son site. Voilà, bon, au revoir.
Salut Daniel, c'est Stéphanie de La Roche-sur-Yon. J'écoute tes émissions depuis toute petite. Et là, je voulais absolument que tu saches qu'il y a un monde sous La Roche-sur-Yon. On n'a jamais vu ça, même au 1er mai. Alors, je te laisse écouter. Bisous, à bientôt, puis merci pour ton émission.
Covélie Sylvie, institutrice en école maternelle. Voilà, petite fille et fille de mineur. Il est 1h13 du matin et je ne dors toujours pas. C'est pas parce que je suis insomniaque, c'est parce que je suis gréviste et que j'en ai marre pas d'être dans la rue parce que ça on y sera demain encore et après demain encore, mais j'en ai marre de pas être entendue. Et si Raffarin pense que ce qu'il vient de nous dire à la radio nous suffit pour nous faire rentrer et nous calmer, eh ben il a tort, parce que demain matin, pour la première fois, je vais amener une cafetière et du café et du sucre pour les grévistes, les enseignants grévistes qui font le piquet de grève devant le lycée. Parce que oui, le bac ne devra pas avoir lieu. Et oui, le bac, s'il faut, eh ben, il n'aura pas lieu. Et c'est comme ça. Et jusqu'à présent, je ne soutenais pas ce genre de méthode. Mais demain matin, j'y serai. Et demain matin, je leur apporte le café. Voilà. Bonne nuit à tous. Au revoir.
Oui, mais c'est encore Dunkerque là, je vous passe une champagne.
On est des gens du Nord, on vient à dire, nous on veut une retraite qui va nous faire pousser. Et hier est un pareil, il va tout nous casser. Nous on n'est pas d'accord, on vient manifester.
Daniel et bonjour l'équipe, c'est Thierry de Juliena. Je vous appelle juste pour une petite information, je suis un agent EDF et je suis en grève, en manif depuis quelques temps déjà, régulièrement, on en parle très peu. Je voulais aussi simplement vous dire, voilà, nous on est grévistes alors qu'on a un régime spécial comme les cheminots. On nous dit que le régime qu'on a, il est pas touché, qu'on n'a pas de soucis à se faire. D'une part, on n'y croit pas, mais d'autre part, il faut quand même se rendre compte que on n'est pas là pour manifester pour notre petit confort personnel, comme le pense la majorité des gens qui ne connaissent pas le mouvement social ni le mouvement syndical. On est là parce que on veut une autre société. C'est un problème de société qu'on est en train de nous jouer là. C'est pas un problème davantage pour les uns ou pour les autres.
Oui, bonjour, je pense qu'on n'en peut plus. Daniel Mermet, t'as été un type formidable il y a quelques années, et là, tu tombes dans l'excès. Dans la vie, il y a de l'excès en rien, et le respect de chacun et de tous. T'es en train de manipuler la France, t'es en train de manipuler les gens, et je trouve ça lamentable quand on sait à quoi ça va arriver. J'habite l'étranger, je dis, tu donnes une image de la France qui pousse les Français à n'importe quoi.
Allons Fillon, sois raisonnable, retire ton plan et négocie. Souviens-toi que c'est formidable de débattre en démocratie, de débattre en démocratie. Rappelle-toi que nos retraites, nous y sommes très attachés, et que si tu veux y toucher, ça pourrait bientôt être ta fête. Retrait du plan Fillon, amis dans la rue, marchons, marchons, que cette idée soit vite réalisée. Salut Daniel, c'est Patrice de Saint-Didier-Haute-Marne.
Et voilà, c'est l'heure des privilégiés, des lentilles, des archaïques, des preneurs d'usagers en otage et des grognards. Et oui, c'est la France qui grogne avec son groin. Oui, on grogne avec un groin. C'est plus des veaux qui sont dans les rues, qui sont partout et qui sont aussi sur le répondeur de la basse égismique, qui ont pris en otage le répondeur de la basse égismique, qui est un répondeur du service public. Cependant, vous avez compris, et tout ça, ça va se passer sur une antenne nationale jusqu'à 18h dans la basse égismique. Vos messages, nombreux, innombrables messages, on ne sait plus quoi en faire, on essaye de choisir ceux qui nous semblent les plus significatifs, et ce qui n'est pas facile. Et puis, aujourd'hui, on va retrouver notre joyeuse bande de sociologues, Gérard Moget, Christian de Montlibert, Christian Laval et Annie Coupé, qui n'est pas, elle, sociologue, mais qui est syndicaliste. Vous avez entendu le premier volet hier de ses éclairages et de ses analyses sur cet enjeu de civilisation, parce que c'est de ça dont il s'agit, et les lumières que les uns et les autres peuvent nous apporter du grain à moudre, donc d'ici à 18h, mais d'autres messages, 01 56 40 37 37.
Ben voilà, moi je suis profession libérale, consultant nouvelles technologies, comme on dit, et ben moi j'y étais à la manif. Et ben pourquoi j'y suis allé à la manif? Parce que de toute façon, ça fait partie de mon devoir d'être humain, de défendre les retraites des autres, de défendre la santé des autres, parce qu'on est tous responsables les uns des autres. Et actuellement, derrière les retraites, l'éducation, et bien c'est la démocratie. C'est même les droits de l'homme qui sont en péril. Faut pas oublier quelque chose. Et les médias, ils en parlent jamais. C'est que tout ce processus néolibéral a pour objectif de transférer le pouvoir public dans les mains du secteur privé. Et ça, on n'en parle jamais. Entre les mains d'une espèce d'élite politico-financière complètement mafieuse, marché truqué, frais de bouche, affaires, etc., a dépouillé les citoyens de tout pouvoir de décision. Comme disait M. Raffarin, c'est pas la rue qui gouverne, mais la rue, la démocratie. Mais ils la détestent. Pour eux, c'est aller voter aux élections, gentiment, et puis après vous rentrez à la maison. Et puis vous allez regarder la télévision, le 20h et Love Story. Nous, on s'occupe de tout. Vous êtes naturellement inquiet, on va vous rassurer. Mais moi, c'est eux qui me font peur. Chirac, Le Pen. Et puis dans peu de temps, on aura à choisir entre deux représentants de commerce, des firmes des multinationales ou des marchands de canons. Alors voilà, moi, pourquoi, profession libérale, j'étais dans la rue. Parce que je veux pas d'un monde qui sent la mort. C'est un combat perpétuel. Alors il faut tenir bon, et puis il faudra recommencer. De toute façon. Parce que le pouvoir, eh ben, la soif du pouvoir, eh ben, c'est incorrigible. Merci.
Salut Daniel, c'est Thierry à Lyon. Donc on est dans la manif, on est plus de dizaines de milliers comme d'habitude. Personne n'a en parlé à part toi, donc je te le dis. Les gens se bougent pour garder une retraite de qualité. Allez, à ciao.
Salut Mermé, Mohamed de Lille. Je t'appelle parce que je voudrais réagir à ce qu'a dit un de tes auditeurs sur le répondeur de la base J'y suis. Ben il a tout à fait raison quand il parle de la NPE, de la marchandisation. Ben écoute, c'est vrai. Il faut savoir que les boîtes d'intérim en France, comme Adeco par exemple, va se retrouver avec des prérogatives qui sont logiquement attribuées à la NPE, notamment dans le cadre de la formation. Donc sachez, chers employés de France et de Navarre, que vos cotisations vont directement aller dans les caisses de chez Adeco, qui va donc se faire un plaisir de vous former aux contraintes du marché. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. La NPE, dans quelques temps, eh ben, c'est de la marchandise. N'oubliez pas ça. Voilà. Et une deuxième petite chose, j'étais vachement surpris de discuter avec un prof et il savait pas du tout ce que c'était la GCS. Ah, GCS, Daniel. Va falloir que tu fasses une émission pour former ou alors éventuellement organiser des petits séminaires sur la GCS pour nos chers professeurs qui aujourd'hui manifestent sans vraiment savoir que dans le fond, bah, c'est la GCS qui nous gère et qui va sûrement nous gérer demain. Salut.
Petite suggestion tactique à notre Premier ministre. Il faudrait qu'il passe au troisième degré du sens de l'observation. Effectivement, il a bien remarqué que la route était droite. Ensuite, il a remarqué que la pente était forte. Il serait peut-être temps qu'il se rende compte que certes, sur cette route droite et pentue, il y a des gens qui montent, mais il y en a beaucoup qui descendent, et très vite. Voilà, c'était Jérôme à Saint-Étienne. Salut à tous.
Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, raison d'agir.
Flight number 2, arriving from...
Ouais, salut Daniel, salut toute l'équipe. En fait, je voulais juste savoir si c'était possible que tu redises à l'antenne la source du chiffre que a dit la sociologue qui dit qu'il suffirait d'augmenter 0,37% par an les cotisations patronales pour garantir 37,5 annuités pour public et privé jusqu'en 2040. Voilà, tôt.
Eh ben oui, ça c'est une information qui vous a frappé dans le débat d'hier avec nos invités, Christian Laval. Je rappelle qu'il est sociologue et qui vient de publier un livre sur l'école. L'école n'est pas une entreprise aux éditions de la Découverte, avec Christian de Montlibert qui est sociologue et qui enseigne à l'université Marc Bloch de Strasbourg, et puis Gérard Moget également. Pardon. Sociologue, directeur de recherche au CNRS, qu'on retrouve aujourd'hui, et puis Annick Coupé, qui est syndicaliste que vous connaissez, qui est une des fondatrices de Sud PTT entre autres, et qui nous disait en effet que la question n'est pas une question démographique, mais bien une question de partage des richesses produites. On parle évidemment des retraites et, disait-elle, le Conseil d'orientation des retraites a chiffré à 0,37% l'augmentation des cotisations patronales pour maintenir le niveau des retraites actuelles jusqu'en 2040. Voilà, c'était cette information, cette information, parce que concernant le Conseil d'orientation des retraites, c'est un organisme, tout ce qu'il y a d'officiel, c'est pas une bande de gauchis dans leur coin qui ont élaboré un chiffre pareil. Alors on va revenir effectivement sur cette explication, et puis ensuite on continuera le débat dont le prétexte est Raison d'agir. Raison d'agir, c'est une association qui a été créée à l'époque par Pierre Bourdieu et qui continue d'exister et qui sur Internet a lancé une pétition autour des questions actuelles dont nous débattons dans notre cher pays et que vous pouvez d'ailleurs consulter sur Internet. Il suffit de faire raisondagir.org, raison avec un S, raison S d'agir, mais tout ça tout attaché, .org, pour découvrir cette pétition. Et c'est sur les termes au fond de cette pétition que se base le débat d'aujourd'hui. Mais d'abord, les précisions à nouveau de Danick Coupé sur ce 0,37% qui vous a frappé.
Bien. Effectivement, le chiffre que vous citiez, c'est un chiffre qui est extrait du Conseil d'orientation des retraites, qui est un organisme tout à fait officiel, qui a fait plusieurs hypothèses. Effectivement, il est indiqué qu'il suffirait d'augmenter de 0,37% par an en moyenne jusqu'en 2040 les cotisations patronales pour garantir le système de retraite par répartition et revenir sur la loi Balladur de 93. Donc revenir tout le monde à 37 annuités et demie avec un haut niveau de retraite à 60 ans. Alors, on peut se dire quand même, mais pourquoi ils font pas ça? Monsieur Raffarin.
C'est pas beaucoup, 0,37.
Et oui, mais pour les patrons aujourd'hui, pour le patronat et pour le MEDEF, c'est beaucoup trop. Puisqu'on est dans une logique depuis quand même maintenant beaucoup d'années où ce qui compte avant tout, c'est la rentabilité immédiate du capital. Vous savez qu'on avait licencié chez Lu parce que on était à 10% de rentabilité et qu'il fallait passer à 15%.
Et
bien on est exactement sur le même débat sur la question des retraites. C'est-à-dire qu'il y a tout à fait les moyens de financer un haut niveau de retraite et de garantir pour les générations à venir un haut niveau de retraite, mais ça on n'en veut pas. Si on avait fait le même raisonnement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale quand on a mis en place le système de sécurité sociale, par exemple, on aurait dit la France n'a pas les moyens, ça va être catastrophique pour les entreprises. Or l'état de la France économiquement était beaucoup plus faible et beaucoup moins, il y avait beaucoup moins de richesses qu'aujourd'hui. Donc on est dans un pays où les richesses continuent d'augmenter, les profits explosent et la productivité va continuer de croître. Et ça, on ne veut pas discuter, et c'est complètement tabou dans les débats actuels, sur le fait qu'une partie, une toute petite partie de l'augmentation de ces richesses, au lieu de l'affecter aux profits et aux profits financiers qui ne sont pas du tout quelque chose pour la collectivité, eh bien on l'affecte à la question des retraites. C'est parfaitement clair. Donc le débat est tout sauf un débat technique. C'est un débat de choix politique, de à quoi on affecte la production des richesses dans ce pays.
Un groupement patronal qui est particulièrement puissant, c'est l'UNICE, UNICE, qui est le regroupement de tous les patronats européens, qui exercent un poids, qui représente un poids considérable, et qui font pression sur la Commission européenne. Or, la Commission européenne vient de déclarer qu'il fallait que le gouvernement Raffarin résiste à toutes les pressions de la rue. Sinon, catastrophe. Le PIB, 4% du PIB seront affectés en 40 ans au maintien des retraites telles qu'elles sont actuellement. 4% du PIB, ce serait une catastrophe terrible. Ces 4% qui n'iront pas dans la poche du patronat européen, de l'UNIS.
Oui, salut Daniel. Tout à l'heure, Annie Coupé et Christian Monlibert rappelaient que, d'après le Conseil d'orientation des retraites, pour maintenir le niveau actuel des retraites, il suffisait que la part des retraites dans le PIB augmente de 4 points d'ici 2040, ce qui représente à peu près une augmentation de 0,37% par an des cotisations patronales. Donc cela prouve bien qu'on est devant un choix de société. Et je me permets de faire mention d'un article paru dans Le Monde du 9 mai, l'article d'un économiste qui s'appelle Jean-Paul Pierrioux. Jean-Paul Pierrioux qui, dans cet article, rappelle qu'entre 1960 et l'année 2000, la part des retraites dans le PIB est passée de 5,4% à 12,6%. c'est-à-dire une augmentation de plus de 7 points. Donc ça veut dire que les propos de d'Annie Coupé et Christian de Montlibert sont en plus validés historiquement. Donc on est bien dans un choix de civilisation en effet. Et quant à savoir pourquoi bien le message d'Annie Coupé ne passe pas, bien je pense qu'il faut tout simplement se reporter au numéro spécial de PLPL qui était distribué donc ce dimanche 25 dans les manifs, et numéro spécial qui montre que bien les médias dominants nous mentent la plupart. Voilà, garderai mon boé.
D'abord, je voudrais vous dire bonsoir. Tracteur et la charrette. Déjà, il y avait 20 000 personnes. Et maintenant, vous êtes plus de 120 000 ce soir à Lyon. Ce soir, c'est le plus grand rassemblement qui n'a jamais été fait en France, qui n'a jamais été fait dans le monde. Faut dire, nous refusons aujourd'hui d'être transformés en marchandises. Ça veut dire que jamais l'OMC passera par nous. Nous allons vous dire que nous n'accepterons pas que vous vendiez les citoyens aux multinationales. Nous n'accepterons pas que vous vendiez les citoyens à l'OMC et à toutes les institutions comme le FMI et à la Banque mondiale. Nous sommes là pour résister, nous sommes là pour construire un contre-pouvoir citoyen pour dire qu'aujourd'hui, c'est par la base, c'est les citoyens à la base qui doivent reprendre le pouvoir. Nous ne leur jetons plus de le laisser confisquer par ceux qui se disent des puissants du monde.
Et ses camarades, enfin, ont fait une chose tout à fait extraordinaire qui consiste à connecter à la fois pratiquement et théoriquement, parce qu'ils ont un discours très cohérent, très conséquent, le plus local, le plus parochial, le Roquefort, l'Écosse, etc., et le plus mondial, l'OMC, les organismes qui font de plus en plus, organisent notre vie, ce que nous mangeons, ce que nous lisons, ou plutôt ce que nous ne lisons pas, ce que nous voyons, plutôt ce que nous ne voyons pas, etc.
Y'a rien, un année écossais, public, privé, français, c'est fini pour tous, y'a rien.
Voilà, petit retour en arrière, José Bové à Millau, commentaire de Pierre Bourdieu qui était présent à Millau ce 30 juin 2000. Et nous retrouvons, un peu évidemment, vous avez compris, dans cet état d'esprit, avec Christian Laval, sociologue, spécialiste de l'histoire de l'utilitarisme, et qui publie donc son bouquin sur l'école n'est pas une entreprise, avec Annie Coupé qu'on vient d'entendre, avec Christian Montlibert, sociologue, et Gérard Mauger, sociologue, également, on est ensemble jusqu'à 18h dans la basse édition. Bon Dieu, ça nous ramène à la pétition que publie donc Raison d'agir. Vous indiquez quelque part qu'il s'agit d'une révolution conservatrice qui dépasse le cadre français. Parce qu'à toutes les objections et les critiques et les analyses que vous faites, on vous répond, mais on est bien d'accord avec vous, bien sûr. Vous êtes tous formidables, des bons sociologues, des bons syndicalistes, etc. Vous êtes formidables. Mais enfin, vous rêvez, on n'y peut rien, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'alternative. Et ça nous échappe, ça nous dépasse. Nous, on voudrait bien, nous autres, à notre niveau français, ici, mais il y a Bruxelles, il y a l'OMC, il y a la GCS, enfin toutes ces choses qui sont à l'extérieur, une espèce de téléologie comme ça qui nous... C'est le haut lieu, hein, c'est en haut lieu.
C'est l'international.
C'est le directif de l'international.
Mais en même temps, les gouvernements français participent à l'ensemble de ces organisations, c'est-à-dire qu'on a quand même à demander des comptes, et les citoyens peuvent demander des comptes aux fonctionnaires, aux administrateurs français qui sont dans ces institutions-là. Pourquoi ne défendent-ils pas une autre ligne, une autre politique que celle du néolibéralisme?
Oui,
sans que, je disais sous forme de plaisanterie, mais ce n'en est pas une, quoi, qu'il y a une internationale du capital, c'est l'internationale du travail, des travailleurs a vécu, bon, pour le meilleur et pour le pire, en tout cas, il y a une internationale du capital, elle existe bel et bien,
c'est-à-dire
depuis au moins 1945, bon, se sont mis en place des think tanks néolibéraux, bon, qui travaillent très très activement, sans relâche, depuis 60 ans, bon, et qui triomphent aujourd'hui, qui triomphent dans la mesure où ils ont réussi à imposer ce mode de pensée individualiste dont on parlait Christian Laval comme une manière de voir le monde, comme une vision du monde qui s'est imposée petit à petit dans toutes les grandes écoles, qu'elles soient françaises, américaines, anglaises, etc., comme la vision légitime du monde. Voilà, cette espèce de d'homo economicus généralisé qui serait le nec plus ultra d'une société civilisée. Voilà, bon, et cette espèce de façon de penser le monde et de voir le monde emprunté aux économistes, bon, ils se sont employés à la faire triompher partout, sans sens là qu'on peut parler d'une lutte symbolique, politique, bon, dans les milieux économiques, bien sûr, d'abord, c'était sans doute là où c'était le plus facile, ça allait de soi, en quelque sorte. Mais ils ont réussi aussi à convaincre, petit à petit, le personnel politique mondial, qu'il n'y avait pas d'autre issue, bon, et à convaincre non seulement les hommes politiques de droite, ce qui était relativement facile, mais aussi, bon, à gagner du terrain auprès des hommes politiques de gauche, qui, petit à petit, ont intériorisé, sont mis à intérioriser, eux aussi, ce mode de pensée, en disant, voilà, bon, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Par contre, d'une certaine façon, de bonne foi, parce qu'ils voient pas qu'ils voient le monde à travers leurs lunettes, parce que c'est leurs lunettes, ils en ont pas d'autres, quoi. Bon, alors, il faut, effectivement, c'est important de brailler.
Un groupe particulièrement important.
Christian Bonhiver.
Oui. C'est, la table ronde des industriels européens, qui regroupe 40 patrons des plus grandes sociétés européennes, et qui est une fabrique d'idées pour la Commission européenne et pour l'offensive néolibérale. Par exemple, la marchandisation de l'éducation pour l'enseignement supérieur. C'est un marché de 2 000 milliards de dollars. 2 000 milliards de dollars. Il y a donc intérêt à le privatiser. Et c'est bien ça le sens des réformes actuelles qui ont été élaborées au sein de cette table ronde des industriels européens, dont la Commission européenne de département éducation a repris les grandes lignes du rapport. Et dans la réforme qui est proposée par Ferry, la réforme des universités, il y a effectivement cet objectif de tendre vers la marchandisation des contenus. C'est-à-dire de mettre en place un marché. Un marché rentable.
Non, mais je crois que, effectivement, à la fois, notre gouvernement n'est absolument pas obligé de faire ce qu'il fait aujourd'hui sur la question des retraites. Je pense qu'il participe des orientations qui sont prises au niveau européen et au niveau mondial. Le G8 se tient à Evian, là, dans quelques jours. Bon, il est évident que c'est un lien, tout ça. Et que, en face de l'internationalisation du capital et de ceux qui voudraient que le monde, finalement, soit un monde de concurrence entre tous les êtres humains, et qui voudraient que toute activité humaine soit une marchandise rentable, parce que, fondamentalement, ce dont on discute là, ça renvoie à ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Or, je crois qu'un des éléments importants depuis 95, c'est toutes ces mobilisations pour un autre monde, altermondialisme. Bon. Et moi, je pense que là, ce qui va se passer au G8, il y aura des mobilisations, mais il y en aura aussi au moment de l'OMC, il y en a eu au moment du Forum social mondial de Porto Alegre, il y en a eu au moment du Forum social européen, etc. Et je pense que s'il y a aussi une compréhension plus large de ce qui se passe, c'est parce qu'il y a aussi tous ces mouvements. Et aujourd'hui, je trouve ce qui est intéressant, c'est que sur les retraites, on voit ce qui se passe en France, mais ça se passe en Autriche. Le 13 mai, pendant que nous étions des centaines de milliers dans les rues de Paris et ailleurs, en Autriche, il y avait 100 000 personnes dans les rues de Vienne. Alors quand on connaît la tradition de négociation et l'absence de mobilisation sociale forte en Autriche, c'est extrêmement intéressant.
C'est bien dit.
C'est extrêmement intéressant. Donc, la différence entre 95 et 2003, c'est que je crois qu'on est de plus en plus sur les grandes questions de civilisation, mais aussi on est de plus en plus dans les convergences des luttes, des résistances. Par exemple, dans les forums sociaux mondiaux, quand on va discuter de ce qui se passe sur l'éducation en France, ça rentre en résonance avec ce qui se passe dans d'autres pays, même si c'est pas de la même façon, même si les choses n'en sont pas exactement aux mêmes étapes, mais il y a une espèce de conscience mondiale qui se construit, que effectivement le monde ne doit pas être une marchandise et que les activités humaines, elles ne peuvent pas être toutes rentables, elles ne peuvent pas toutes participer à faire du profit, c'est pas possible. Il y a des valeurs beaucoup plus importantes pour l'avenir même du monde, de la planète, de la civilisation.
Là, on a des sociologues, des intellos, des gens qui ont eu la chance de faire des études et qui baignent en permanence dans ces informations. Ça vous arrive tout le temps. Vous êtes irrigué en permanence d'informations, de savoir. Christian Bonhiver, tous les jours, lit les échos. mots et souligne avec son feutre, etc. Et puis à la fin de l'année, il a une vision comme ça, c'est formidable, ça nous apporte des... Mais enfin, dans la vie quotidienne, c'est pas facile de faire passer les regards que vous pouvez avoir, les savoirs que vous pouvez accumuler, les conclusions auxquelles vous arrivez, les faire passer. Pour l'instant, par rapport à cette offre, ce que vous appelez l'offensive néolibérale, on a eu l'histoire de José Bové qui a réussi accidentellement, peut-être, enfin c'est des conjonctures comme ça historiques qui sont produites, à faire comprendre le lien entre cette idéologie néolibérale de l'économie financiarisée et puis notre assiette. Hein. Il y a eu ce lien qui s'est produit. Mais c'est sans suite pour l'instant. On arrive toujours là, peut-être avec les retraites. Hein, c'est une chose qui nous touche et qui est une chose quotidienne et qui est notre avenir, notre fin de vie. Il n'y a rien de plus important que ça. C'est notre perspective individuelle et collective.
Il y a une bataille d'intérêts divergents. Faut le dire. Alors on appelait ça la lutte de classe. On peut l'appeler comme
ça,
on veut.
Ça c'est un gros mot. Ça c'est faut pas.
Peut-être,
faut plus dire
mais
des choses pareilles.
En tous les cas, je pense qu'effectivement il y a une bataille politique au sens, il y a des choix possibles différents qui ne répondent pas aux mêmes intérêts. Dans un cas, on est dans l'intérêt d'une minorité qui développe des profits, etc. Et dans l'autre cas, on est sur des notions de bien commun, de bien collectif pour la grande majorité, pour tout le monde. Évidemment, en face de nous, comme il y a des questions d'intérêts tout à fait opposées, eh bien, ils mettent le paquet. On le voit sur la politique actuelle du gouvernement sur les retraites, je veux dire que la propagande qui est faite, et d'ailleurs je pense qu'ils en font un peu trop parce que ça, à force, ça se retourne contre eux, mais de dire ensemble on va sauver le régime de retraite par répartition, c'est évidemment de la com au sens la plus mauvaise du terme, c'est-à-dire que on nous donne pas les arguments. On dit par exemple dans ces arguments, on maintient les avantages familiaux. C'est totalement faux. Par exemple, jusqu'à présent, on peut en discuter, il y avait une bonification pour les femmes qui ont eu des enfants. On pourrait discuter si c'est bien, pas bien. Mais cet avantage est supprimé. Et ça, ils ne le disent pas. Ils disent, on maintient les avantages familiaux. Donc, on est dans une bataille de propagande, mais parce qu'on est dans une bataille de choix qui ont des intérêts tout à fait contradictoires.
Il me semble que c'est vrai que l'emballage, je pense, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer, l'emballage de ces mesures, de ces réformes, comme il dit, etc., est extrêmement sophistiqué et assez bien fait pour qu'effectivement dissimuler finalement quels sont les enjeux. Ceci dit, je pense que ça n'aboutit que dans une certaine mesure, parce que finalement, en définitive, je crois, il me semble que la chose qui est peut-être la plus mobilisatrice, parce qu'elle est directement perceptible par chacun, c'est des résultats qu'on peut clairement anticiper de ce que seront ces réformes. Pour les retraites, c'est clair, je crois que tout le monde a compris. Il s'agit de faire bosser les gens plus longtemps et de baisser les pensions de retraite. Voilà. Bon, ben compliqué à comprendre. Leur intérêt est directement menacé. Bon, leur intérêt de salarié, d'homme vivant sur cette terre, voilà, avec lequel on explique la durée de vie va se prolonger beaucoup et ils vont devoir redevenir des vieillards qui doivent vivre avec trois fois rien. Bon, c'est pas très drôle comme perspective, chacun peut le comprendre, c'est assez simple à comprendre. Bon, c'est-à-dire que cette forme d'insécurité salariale qui avait été combattue et relativement efficacement à travers la mise en place de l'État social dont on parlait tout à l'heure, est petit à petit en train d'être détruite, ou en tout cas grignotée, quoi. Grignotée peu à peu. Voilà. Les gens comprennent ça, parce que le résultat, c'est un peu ce que tu disais par rapport à José Bové, qui expliquait le rapport avec ce qu'il y a dans mon assiette, quoi. Bon, ben là, c'est ce qu'il y a dans mon portefeuille, c'est pas très compliqué à comprendre. Pour l'école, je pense aussi que ça va venir, évidemment. À l'heure actuelle, on se dit, merde, décentralisation, machin, moi je vois pas le rapport. Bon. Je pense qu'on va finir par le comprendre assez vite, le rapport. Quand on va dire, pour cette réforme, fait de proximité, là, voilà, l'école de proximité, c'est-à-dire on pense ça va être plus proche de mes soucis, quoi. Bon, à moi qui suis un ouvrier lorrain dont les enfants vont à l'école, quoi. Alors ils vont découvrir quoi? Ils vont découvrir que ma foi, ils avaient, hein, c'est une petite conquête, c'est vrai, accès plus facilement qu'avant à l'université, etc. Mais que l'université c'est au moins 3 ans, hein. LMD c'est ça, c'est veut dire le minimum pour avoir un diplôme, c'est au moins 3 ans. Il y en a beaucoup pour qui 3 ans c'est dissuasif, quoi. Bon, ou alors il faudrait aller, si je veux pouvoir faire aux chiffres, je me déplace. Hein. C'est la mobilité géographique imposée, parce que la petite fac, elle sera bouclée. Elle est là, elle seulement, mais pas MD. Donc, on s'arrête là, quoi. Bon, je pense que c'est très important, bon, aussi, de petit à petit, bon, que derrière l'emballage, quoi, hein, se fasse jour la réalité, ce qu'il y a dans l'assiette, ce dont tu parlais tout à l'heure, apparaisse ce qu'il y a dans l'assiette. Ce qu'il y a dans l'assiette, je crois, c'est clair. Bon, c'est la réduction, finalement, de ces conquêtes, voilà, de l'État social, c'est la réduction des services publics, de ces conquêtes essentielles. C'est la réduction des protections salariales. Bon, c'est tout ça qui a mis en cause. Au fond, c'est pour ça qu'on peut parler de révolution conservatrice, au sens où effectivement, il s'agit de faire marche arrière toute et, si possible, revenir à l'état du 19e siècle. Alors, évidemment, ça se fait pas en un jour, ça se fait pas en deux jours, etc. Alors, on peut espérer que comme ça, bon, bah, on grignote. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients parce que ça devient aussi très matériel, très directement sensible.
Une bataille d'intérêts divergents, une affaire de choix de société, même au-delà, une affaire de choix de civilisation. La solidarité ou la rivalité, l'État social ou l'État libéral, ou la société libérale, ou le monde libéral. Voilà ce dont nous discutons avec Christian Laval, sociologue, spécialiste de l'éducation, avec Annick Coupé, syndicaliste, avec Christian de Montlibert et Gérard Moger, tous deux sociologues et membres de l'association Raison d'agir, créée par Pierre Bourdieu, et qui lance une pétition sur le net, résister ensemble à l'offensive néolibérale. Je voudrais quand même qu'on reparle de l'État, Christian de Montlibert, l'État social, c'est ce que la main gauche de l'État, hein, l'expression de Bourdieu, c'était celle-là. Donc on va laisser la main droite de côté pour l'instant. Mais si on dit État, on en parlait tout à l'heure, on dit bureaucratie, carcan, mammouth, administration, manche de lustrine, rond de cuir, etc. Voilà. Comment cette image s'est construite? C'est vous, hein, les historiens et les sociologues. Enfin, plus sociologues qu'historiens, mais enfin. Et puis, comment vous voyez ce mammouth, ce monstre administratif?
C'est vrai qu'il y a parfois de l'administration, de la bureaucratie, de la lourdeur, etc. Mais ceci étant, l'école est une belle réussite, même si effectivement un petit pourcentage d'élèves ont du mal à suivre, n'ont pas toujours des méthodes pédagogiques adaptées, etc. Mais ceci étant, pour la grande majorité des élèves, il y a un progrès social considérable qui résulte de l'état éducateur. Que, effectivement, bien entendu, il y a un certain nombre d'insatisfactions, de lourdeurs bureaucratiques, de difficultés de fonctionnement. Mais après tout, est-ce qu'elles ne sont pas le résultat d'une absence de financement des institutions publiques, d'une diminution du nombre de fonctionnaires? On pourrait aussi se poser cette question-là. Si on attend si longtemps devant les guichets, c'est parce que le nombre de fonctionnaires a diminué. Si on attend si longtemps, si parfois il faut faire les pièces en plusieurs exemplaires, etc., c'est parce que, effectivement, là aussi, le nombre de personnes capables de traiter les dossiers est restreint. Donc, je veux dire que on pourrait développer l'État social, renforcer surtout, alors bien entendu, les procédures démocratiques. Renforcer les procédures électives, par exemple, à l'intérieur des administrations. On en a un exemple extraordinaire avec l'université. L'université a réussi à faire face à une augmentation faramineuse du nombre d'étudiants, avec pratiquement une augmentation extrêmement faible des moyens. Cela s'est fait parce que, il faut bien le dire, les professeurs ont payé de leur personne. Mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient une certaine éthique de responsabilité. Et cette éthique de responsabilité, elle est largement liée au fait que l'université fonctionne comme un système d'autogestion, avec un relatif, bien entendu, puisque les moyens sont accordés par le ministère. Mais néanmoins, l'université, le système est électif. Nous élisons le directeur de notre unité pour une durée de 4 ans ou de 5 ans. Il n'est pas rééligible par la suite pour éviter que les gens s'installent dans des systèmes de domination. Nous élisons le président de l'université. Il n'est pas rééligible. Et justement, le gouvernement veut transformer les choses et en faire quelqu'un qui serait rééligible, ce qui lui permettrait de durer, de devenir beaucoup plus une courroie de transmission de l'ordre gouvernemental. C'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas rééligible. Donc nous sommes dans un système très électif, avec énormément de systèmes de représentation des salariés. Je crois que les services publics fonctionneraient en effet mieux encore s'ils étaient mieux dotés de moyens, s'ils avaient effectivement un nombre de fonctionnaires plus élevé, qu'ils ne soient pas obligés, comme actuellement, d'embaucher un très grand nombre de vacataires ou de contractuels, et si, effectivement, on y développait aussi une logique démocratique, une logique d'élection. Une nouvelle utopie est possible, avec beaucoup plus de participation dans des processus électifs, dans l'ensemble des activités de travail.
Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation.
Non, sur l'école.
Gérard Moget.
Oui, sur l'école, c'est vrai que c'est un coup qu'on nous a fait très souvent, en tout cas pour les sociologues bourdieusiens, quoi, bon, de dire, voilà, vous avez dénoncé l'école pendant 20 ans, l'école reproductrice des inégalités, voilà maintenant que vous défendez l'école, quoi. Bon, alors je pense que la réponse à ce type d'objection...
C'est la main gauche de l'école que vous défendez.
Bah oui, on peut dire, c'est vrai que l'école a deux faces, quoi, qu'elle est à la fois, mais bon, j'ai rien dit d'autre, d'ailleurs, hein, c'est une lecture trop rapide, bon, enfin, ou partiale, qui amène à dire ça, quoi, que l'école, elle est à la fois émancipatrice et reproductrice. Alors on peut dire l'école reproductrice, bah effectivement il faut la corriger, ça veut pas dire que parce qu'elle est reproductrice on peut rien y faire. Hein, la condition est pas, c'est comme ça. L'analyse de l'école reproductrice, donc c'est une critique effectivement de l'école et à mon avis qui reste complètement fondée. C'est vrai qu'elle est aussi ça, elle est aussi ça, donc on peut critiquer l'école. Donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on peut se prévaloir d'une réforme de l'école, parce que les gens disent ah c'est pas terrible l'école, quoi. Bon on peut réformer l'école. Bah oui on peut réformer l'école. Alors, le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en réformant l'école. Est-ce qu'on va accentuer encore un peu davantage l'école qui reproduit des inégalités ou qui au lieu de travailler à réduire les inégalités travaille à creuser les inégalités. Bon, c'est effectivement une réforme dans un sens un peu particulier, quoi. Donc la question elle est celle-là, quoi. C'est comment est-ce qu'on peut aider l'école à remplir un peu mieux sa mission émancipatrice et à être moins reproductrice des inégalités. Alors par rapport à ça, bon, c'est facile, il y a plein de pistes de réflexion sur la question. C'est vrai que ça suppose effectivement des moyens, hein. C'est simple, alors ça fait un peu, bon, on dit, bon, les moyens. Mais si, bien sûr, oui, pour transformer en intellectuel un jeune des cités, là, comme on dit aujourd'hui, ben, c'est vrai, il faut se donner les moyens, ça rien d'impossible, mais il faut se donner les moyens qui sont substitutifs à ceux dont bénéficient ceux qui sont nés dans une famille bien née, ou dans une famille de profs, en gros, grosso modo. Bon, ben, c'est les moyens que déploie cette famille, il faut que l'État les déploie auprès des jeunes en question. Mais ça veut pas dire que c'est impossible, c'est pas une mission impossible, c'est une mission possible. Encore faut-il se donner les moyens de cette réussite-là. Alors bon, on peut décider de faire marche arrière toute. À mon avis, c'est ce vers quoi on va. Alors, on dit faut réformer. Les gens disent ah bah oui, bravo, faut réformer, bien sûr. Le problème, c'est dans quel sens on réforme. Bon, voilà, je crois que c'est ce vers quoi on se dirige, quoi. C'est d'ailleurs, je pense, c'est un principe général, d'ailleurs, hein, de cette rouerie, quoi. C'est la réforme, la réforme. Les gens disent ah oui, cette société est pas terrible. Donc ils sont pas contre l'idée de la réformer, évidemment. Sauf qu'on peut faire pire. Voilà, on peut réformer pour faire pire. Bah, c'est ça dont il s'agit, quoi.
Nos retraites, elles sont à nous. Nos anciens se sont battus pour les gagner. Nous nous battrons pour les garder. Nos retraites, elles sont à nous. Nos anciens se sont battus pour les gagner. Nous nous battrons pour les garder.
Face à cette machination, qu'est-ce qu'il y a, hein? Face à ce rouleau compresseur, qu'est-ce qu'on a? On se tourne tous vers un nid de coupé qui incarne pour nous le syndicalisme.
Non, mais je pense que il y a des résistances, parce que je pense que partout un peu sur la planète, il y a des prises de conscience, parce que les gens subissent. Quand il y a plus d'école dans certains quartiers, quand l'eau n'arrive plus dans certains quartiers de grandes métropoles par exemple, et que la seule solution dit ah ben on va privatiser mais ça vous coûtera 20, 30 ou 50% plus cher, eh bien il y a des résistances. On a même vu des révoltes sur l'eau en Bolivie par exemple. Bon, donc je crois qu'il y a vraiment des résistances, c'est diffus, c'est pas un mouvement d'ensemble et c'est pas tout ça, mais je crois, moi, on est quand même mieux aujourd'hui en tous les cas qu'on y était dans les années 80, où là c'était le rouleau compresseur de la pensée libérale, et quand vous commenciez à dire mais enfin attention les dégâts que ça crée, là on était plus qu'archaïque, on était vraiment en dehors du monde. Bon, je pense qu'aujourd'hui ce qu'on a gagné collectivement, c'est-à-dire tous ces mouvements sociaux, ces luttes sociales, ces syndicalistes, mais aussi des mouvements comme ATTAC ou d'autres, eh bien c'est qu'on peut redébattre de tout ça. On peut redébattre pour dire il y a d'autres choses possibles, comment on peut faire, et comment y compris répondre aux besoins des populations. Moi, je pense qu'effectivement, il faut défendre les services publics, tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut aussi dire que, eh bien, les services publics, on peut, on doit les améliorer ensemble, mais à partir des vrais besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous vend la soupe de la décentralisation, qui en fait est simplement pour faire baisser les moyens, et puis les régions riches, les villes riches, eh bien, elles auront les moyens de payer des choses intéressantes, et puis les autres, il faudra qu'ils se débrouillent. Or, je pense que, par exemple, il serait utile de discuter dans certaines villes, par exemple, de dispensaires sociaux. On les a fermés, les dispensaires. Or, c'était fondamental pour pour beaucoup de populations. Or, c'est pas ce choix-là qu'on va avoir dans la décentralisation. Moi, je connais bien l'exemple de la Poste. Eh bien, la discussion aujourd'hui, c'est de dire quel jour vous choisissez de fermer le bureau de poste. Est-ce que c'est le lundi, est-ce que c'est le mercredi, est-ce que c'est le vendredi? Bien, ça, c'est pas un débat, parce qu'effectivement, les normes, elles sont déjà imposées. De toute façon, faut fermer le bureau de poste. Alors, à la limite, on discutera avec les populations locales, avec le maire et avec les citoyens du village ou de la petite ville, quel jour vous préférez qu'on ferme. C'est de la fumisterie, c'est même plus de la rouerie, je veux dire, c'est l'arnaque totale. Bon, donc je crois qu'effectivement, on peut à la fois défendre la notion même de service public comme élément d'égalité, élément de redistribution collective pour le bien commun, et en même temps dire qu'il y a des choses qui sont nettement améliorables. Donc c'est dans cette situation qu'on est, c'est-à-dire à la fois il y a eu une dégradation des services publics réels parce que ces politiques néolibérales, elles sont à l'œuvre quand même depuis une vingtaine d'années dans ce pays, et tous les gouvernements successifs quand même ont été dans ce sens-là, il faut le dire, il faut le reconnaître malheureusement. Bon, et qu'en même temps aujourd'hui, il y a des accélérations extrêmement importantes. Donc je crois qu'on est en marche contre ces accélérations, mais ça nous empêche pas de dire qu'on est prêt à redéfinir des fondamentaux qui aillent beaucoup plus loin dans le bien collectif.
Pour finir, je voudrais qu'on parle des luttes et des grèves, moi, elle-même. Ce qui est frappant dans tout ça, c'est que, vous n'êtes pas historien du social, mais quand même, on oublie, on en vient un petit peu à l'idée du début, c'est-à-dire que les retraites, on s'est battu pour les gagner. On oublie que toute cette liberté qu'on a là en ce moment, par exemple, de parler sur une radio de service public, ça a pas été donné. Ça a été acquis, ça a été gagné. C'est le fruit de luttes menées par des auditeurs, des journalistes, ceux qui ont créé le service public de la radio, tout simplement. Il y a des idées, il y a des luttes derrière tout ça. Actuellement, quand vous êtes dans la rue, les uns et les autres, Annick observe ça aussi en tant que syndicaliste. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces grèves et de ces luttes? En quoi est-ce qu'elles font, au fond, progresser notre monde? En quoi est-ce qu'elles sont au moins une digue contre ces destructions?
Je crois qu'à la fois par les revendications qu'elles portent, par les problèmes politiques qu'elles portent, mais aussi parce que les moments de lutte, c'est des moments où on recrée du lien social. Enfin, je pense que dimanche, par exemple, dans la manifestation à Paris, c'était assez extraordinaire l'ambiance qu'il y avait. Et pourtant, on n'a pas gagné encore contre le gouvernement. Donc, je pense que c'est des moments aussi où les solidarités se recréent. Comme en 95, on voit les enseignants aller rencontrer les parents d'élèves, mais pas seulement, aller rencontrer les postiers, les cheminots. On voit des salariés du privé qui peuvent pas faire grève, où c'est trop difficile, qui viennent effectivement rencontrer ces enseignants, qui viennent rencontrer ces postiers, ces cheminots. Donc ça me semble, je dirais, presque aussi fondamental que les raisons de la lutte elle-même. Parce que c'est aussi comme ça qu'on recrée du débat politique au sens le plus noble du terme.
On fait de la politique, là.
Absolument, mais au sens le plus important du terme, c'est-à-dire des décisions collectives pour des choix collectifs et pour des biens collectifs. Et on redonne du sens à la vie en société. Donc ça me semble... Et moi, dimanche, je trouvais que c'était extraordinaire parce que il y avait eu la manifestation du 13 mai qui était très importante. Entre-temps, le gouvernement avait essayé de casser ce mouvement à la fois en divisant le mouvement syndical et en faisant sa campagne de com. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu dimanche, c'est que ce mouvement était de plus en plus fort, mais il était de plus en plus vivant, de plus en plus politique et de plus en plus de solidarité. Donc ça, je pense que c'est des moments extrêmement importants.
Gérard Moget.
C'est vrai, je trouve que c'est un des miracles sociaux, enfin, qui se produisent à chaque fois que se déclenche un mouvement social de grande envergure. Alors, je crois que ce miracle, il est fait, je crois, de la prise de conscience collective et progressive de l'existence du collectif, c'est-à-dire contre le sentiment d'impuissance que chacun ressent parce qu'il est individuel, parce qu'il est individualisé de plus en plus dans un monde qui fait tout pour individualiser chacun et détruire le sentiment du collectif ou de l'appartenance à un collectif, y compris détruire activement les collectifs militari au besoin. Bon, je pense que un mouvement de grève, une manifestation qui marche, quoi, ça fait découvrir à chacun l'idée qu'il est membre d'un collectif, il n'est pas tout seul, tiens, je suis pas tout seul, il y en a plein d'autres très différents d'ailleurs au besoin. Ce collectif a du pouvoir. C'est-à-dire que ce collectif, c'est aussi détruire ce sentiment d'impuissance qu'on a quand on est tout seul. Donc c'est quand le collectif grossit, quoi, quantitativement et qualitativement en même temps, parce qu'il progresse dans sa compréhension de ce qui se passe, bon, je crois que bon, se détruit justement cette individualisation et ce sentiment d'impuissance. C'est pour ça aussi que c'est indécidable, c'est-à-dire que la situation actuelle, en fait, elle est vécue dans l'espoir par certains, dans la crainte pour les autres, comme une situation indécidable, parce qu'on ne sait pas très bien comment ça peut évoluer. C'est-à-dire que effectivement, ce collectif peut se renforcer. Enfin, je me souviens d'un 68 art, je ne suis pas tout neuf, mais je me souviens de 68, enfin, d'une façon très représente encore aujourd'hui. Après tout, qui aurait dit. Puis il y avait une grève, une usine qui se mettait en grève, puis une deuxième, puis une troisième, et puis comme ça. Bon, et je pense que cette espèce de mouvement de boule de neige, il est construction collective d'un collectif qui se fait au fur et à mesure qu'il se fait, quoi. Je veux dire, c'est la marche se prouve en marchant. Et bon, peut-être de nouveau, comme en 68 ou en 95, on peut imaginer que tout, il y a beaucoup d'ingrédients pour que se reconstitue une forme de conscience collective, et à travers cette conscience collective, des collectifs qui eux-mêmes produisent cette conscience collective. Enfin, tout ça se boucle. Bon, et aussi, bon, la preuve que le collectif aussi n'est pas impuissant, ce qui est aussi très, très important. Bon.
Christian Laval, pour finir.
Moi, je suis d'accord. J'ai l'impression que ce mouvement est un grand mouvement d'éducation, d'auto-éducation considérable, et qu'il n'y a pas seulement de l'action, et il n'y a pas seulement de la résistance, il y a aussi de la réflexion. Tout se passe comme si action et pensée allaient ensemble, et comme si l'action engendrait la pensée de l'action. Pensée agit en fait dans ce mouvement, et je crois on avait commencé par parler de la rouerie du gouvernement qui jouait sur l'agenda et qui laisse pourrir les choses. C'est incontestable, mais en même temps, là où peut-être il a tort, c'est que il nous laisse du temps.
Écoutez bien, gouvernement.
Il laisse du temps justement à cette réflexion d'émerger. Moi, je vois partout dans les assemblées générales de grévistes, je vois partout des gens qui réfléchissent, qui interrogent, qui pensent, qui lisent, et ça, je crois que c'est quelque chose d'étonnant et de très frappant pour un sociologue. De voir effectivement comment des gens qui étaient isolés, et Gérard Meugier l'a très bien dit, pensent ensemble.
Solidarité silencieuse avec les grévistes de Chefcog. 40e jour de grève contre les conditions de travail contre lesquelles vous luttez. Eux les connaissent déjà. Apportez votre pièce, idée à vaincre. 40 jours de grève Chefcog.
Question de Montlibert.
Alors moi je vais être un peu pédago. Mais je veux dire qu'il y a déjà eu des recherches qui ont été faites sur ces questions et qui ont montré ce que nous sommes en train de dire, qui l'ont démontré, objectivé. Et c'est une des raisons d'ailleurs de Raison d'agir, de l'existence de Raison d'agir, que de diffuser ce type de recherche. On sait par exemple, la recherche a été faite par un collègue américain qui a travaillé sur près de 60 années de grève en France. Il a montré qu'une grève qui est menée avec détermination finit toujours par être payante. Elle peut sur l'instant ne rien rapporter. Mais si la détermination a été forte, quelques mois plus tard ou même une année plus tard, elle obtiendra gain de cause. Elle réussira. Inversement, une grève qui peut être très suivie à un moment donné et qui se solde par une forte augmentation de salaire peut très bien voir 6 mois plus tard cette augmentation de salaire reprise finalement. Ce qui compte ici, c'est la détermination. Et ce qu'il a montré sur 60 années de grève en France, c'est que toutes les grèves qui ont été menées avec détermination ont été payantes. La lutte paie. C'est le premier résultat. Le deuxième résultat, d'autres recherches ont été menées qui montrent que la participation à une manifestation a toujours pour effet de lutter contre la démoralisation. On peut être très démoralisé, mais le fait de se retrouver nombreux, tous ensemble, ça recharge les batteries, en quelque sorte. Et on repart plus déterminé. Donc c'est un effet de lutter contre la démoralisation. Contre le fait que l'on soit chacun dans sa petite existence, isolé les uns des autres. Le troisième résultat des recherches, c'est de montrer en effet qu'il y a des échanges extrêmement nombreux qui se développent durant la participation aux grèves, aux manifestations, que l'idée de collectif se remet en place. Et surtout qu'à l'intérieur de ce collectif, il y a invention de nouveaux objectifs, de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de faire. C'est dans les grandes situations comme cela, de mobilisation collective, que s'inventent de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Donc c'est extrêmement important, tout cela. Je suis un peu pédago, je le redis encore, il y a invention.
Lundi, c'est la grève. Mardi, c'est la grève. Mercredi.
Voilà, merci à tous. Merci à Annick Coupé, syndicaliste qui représentait le groupe Solidaire, Christian Laval, sociologue spécialiste de l'histoire de l'utilitarisme et auteur de L'école n'est pas une entreprise à la découverte, Christian de Montlibert et Gérard Meugier du groupe Raison d'agir, et une fois encore, je vous rappelle le site raisondagir.org où vous pouvez consulter cette pétition, Raison d'agir, tout attaché, .org.
www.radiocristianlaval.org. Technique aujourd'hui Pascal Baldassari et Julien Dumont, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Frédéric Rouziès qui s'en occupe aujourd'hui. Le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Coy Nguyen s'est occupé des musiques et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale réclame. Question de mon libéral.
Alors moi je vais être un peu pédago, mais je vais dire qu'il y a déjà eu des recherches qui ont été faites sur ces questions et qui ont montré ce que nous sommes en train de dire, qui l'ont démontré, objectivé. Et c'est une des raisons d'ailleurs de raison d'agir, l'existence de raison d'agir, que de diffuser ce type de recherche. On sait par exemple, la recherche a été faite par un collègue américain qui a travaillé sur près de 60 années de grève en France. Il a montré qu'une grève qui est menée avec détermination finit toujours par être payante. Elle peut sur l'instant ne rien rapporter. Mais si la détermination a été forte, quelques mois plus tard ou même une année plus tard, elle obtiendra gain de cause. Elle réussira. Inversement, une grève qui peut être très suivie à un moment donné et qui se solde par une forte augmentation de salaire peut très bien voir 6 mois plus tard cette augmentation de salaire reprise finalement. Ce qui compte ici, c'est la détermination. Et ce qu'il a montré sur 60 années de grève en France, c'est que toutes les grèves qui ont été menées avec détermination ont été payantes. La lutte paie. C'est le premier résultat. Le deuxième résultat, d'autres recherches ont été menées qui montrent que la participation à une manifestation a toujours pour effet de lutter contre la démoralisation. On peut être très démoralisé, mais le fait de se retrouver nombreux, tous ensemble, ça recharge les batteries, en quelque sorte. Et on repart plus déterminé. Donc c'est un effet de lutter contre la démoralisation. Contre le fait que l'on soit chacun dans sa petite existence, isolé les uns des autres. Le troisième résultat des recherches, c'est de montrer en effet qu'il y a des échanges extrêmement nombreux qui se développent durant la participation aux grèves, aux manifestations, que l'idée de collectif se remet en place et surtout qu'à l'intérieur de ce collectif, il y a invention de nouveaux objectifs, de nouvelles valeurs, de nouvelles manières de faire. C'est dans les grandes situations comme cela, de mobilisation collective, que s'inventent de nouvelles valeurs, de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives. Donc c'est extrêmement important tout cela. Je suis un peu pédago, je le redis encore. Il y a invention.
Lundi, c'est la grève. Mardi, c'est la grève. Mercredi.
Voilà, merci à tous. Merci à Annick Coupé, syndicaliste qui représente le groupe Solidaire, Christian Laval, sociologue spécialiste de l'histoire de l'utilitarisme et auteur de L'école n'est pas une entreprise à la découverte, Christian de Montlibert et Gérard Moget du groupe Raison d'agir, et une fois encore, je vous rappelle le site raisondagir.org où vous pouvez consulter cette pétition Raison d'agir, tout attaché, .org. Technique aujourd'hui Pascal Baldassari et Julien Dumont, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Frédéric Rouziès qui s'en occupe aujourd'hui. Le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Coy Nguyen s'est occupé des musiques et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale réclame.
Lundi c'est la grève, mardi c'est la grève, mercredi.
Voilà, merci à tous, merci à Annick Coupé, syndicaliste qui représentait le groupe Solidaire, Christian Laval, sociologue spécialiste de l'histoire de l'utilitarisme et auteur de L'école n'est pas une entreprise à la découverte, Christian de Montlibert et Gérard Moget du groupe Raison d'agir, et une fois encore, je vous rappelle le site raisondagir.org où vous pouvez consulter cette pétition Raison d'agir, tout attaché, .org. Technique aujourd'hui Pascal Baldassari et Julien Dumont, assistante Joël Levert, le répondeur c'est Frédéric Rouziès qui s'en occupe aujourd'hui. Le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Coy Nguyen s'est occupé des musiques et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale réclame.